Vous faites quoi ?
Numéro 4. Le numéro de cette semaine, une pochette surprise.
Karaoké, cuisine, révolution.
J'ai rencontré Maxime, alias Maxou Bisou, après un de ses karaokés au balcon. Karaoké au balcon qu'il organise toutes les semaines, maintenant depuis le début de notre condition nouvelle, quelque part à Saint-Gilles. On veut pouvoir penser. On veut pouvoir sortir. Pas seulement tourner en rond autour de son désarroi, mais s'intéresser à ce que certains nœuds font afin de conjurer le mouvement de la ligne en spirale qui a trop tendance à nous hypnotiser. Pochette qui se déplie et qui découvre, eh bien, des surprises.
Vous écoutez Radio Panique.
Tu vois, la première question, c'est souvent « qu'est-ce que ça change pour toi ?» Mais par rapport à ta pratique, et notamment ici, c'est sur la pratique du karaoké. Qu'est-ce que c'est pour toi le karaoké et qu'est-ce que ça change pour toi maintenant ?
Tu veux dire comment le karaoké change entre le pré et le post et le confinement ?
Ouais, pour toi. L'idée aussi, c'est parce que tu le fais maintenant, mais avant aussi. Et tu as travaillé avec des personnes âgées, etc. Donc c'est aussi, de manière générale, un peu, c'est quoi pour toi le karaoké et voilà, qu'est-ce qui s'est déplacé maintenant ?
Mais le karaoké, c'est une manière de sortir de soi par un médium qui nous est tout à fait naturel, qui est le chant, qui arrive presque avant le langage, en fait. Hein. Le karaoké, mes premières expériences... C'était à Marseille, et c'était dans des univers festifs, mais pas vraiment karaoké classique, plutôt karaoké un peu punk, un peu déviant. Et ce que j'aime avant tout, c'est le fait de sortir de soi, c'est-à-dire qu'on va choisir une chanson parce qu'on a envie de cette chanson, on va avoir peur de la chanter jusqu'au moment où l'instrumental arrive et on se lance. Il y a cette amplification, il y a ce fait que nos mots se mettent sur une musique qu'on connaît très bien et qu'elle remplace un chanteur qui est des fois mort, qui en tout cas on prend la place de quelqu'un aussi. Et il y a un certain mélange entre l'humilité et puis l'ego qui se met en place. Le fait de chanter un répertoire de variété et en même temps, enfin voilà, qui est accessible à tous et en même temps le fait d'être là devant un public très souvent.
Chez toi, il y a un engagement social là-dedans. Tu fais pas des karaokés dans des casinos pour gagner de l'argent ou tu vois, il y a un truc en plus.
Je crois vraiment que le premier truc, c'est l'envie de communion, hein, parce que j'ai toujours remarqué que ce qu'on peut appeler la fête arrive très vite avec le karaoké, du fait que tout le monde va. Chacun son tour, passer comme ça au micro, prendre la parole. Il y a pas de monopolisation du show, quoi. C'est quelque chose de très horizontal. Donc là, à ce niveau-là, il y a quelque chose de social, c'est sûr, entre les personnes qui ont tout à fait l'habitude et puis les personnes qui vont se tenter et qui, d'un coup, vont sortir d'elles-mêmes et du coup, se révéler un petit peu. C'est rare qu'on se sente frustré par un karaoké, même si on chante mal et tout ça, on a une adrénaline qui vient de se faire et... J'ai commencé le karaoké dans un atelier d'artistes partagé où on se retrouvait à une dizaine, quinzaine le dimanche à manger des gaufres, faire du ping-pong et faire du karaoké, tout ça en même temps. Donc ça c'était vraiment des moments très joyeux. Et puis il y a eu le karaoké Sing or Die, le karaoké punk de Marseille qui se faisait soit à la machine à coudre, soit dans l'espace public où tout le monde participait et voilà, il y avait une approche punk sur des morceaux qui n'étaient pas forcément punk, mais on trouvait tout à coup, il y avait cette impulsion punk qui faisait qu'on pouvait crier dans le micro et des fois aller un petit peu dans des sons qui ne sont pas forcément tout à fait confortables à l'écoute. Et puis, à mon arrivée à Bruxelles, il y a eu tous ces thés dansants où j'ai participé en proposant des karaokés aux seniors, donc des personnes qui sont vraiment ancrées dans les années 50, 60, 70, et en leur proposant comme ça un panel de chansons des années 20 aux années 80, je m'arrêtais là. On voyait que chez ces personnes, il y avait quelque chose qui s'animait, elles choisissaient une chanson, elles les connaissaient. Souvent, les seniors, ils n'ont même pas le rapport au karaoké, ils connaissent pas, ils comprennent pas qu'il y a un prompteur et qu'il faut lire en même temps. Donc ils ont les paroles en fait ancrées en elles. Hein. Je pense que les seniors ont beaucoup plus leur rapport à la mémoire que nous, notamment au niveau des chansons, vu que le visuel était beaucoup moins présent. Et voilà, c'est de voir comment, chez les seniors, quand ils vont chanter une chanson de Montand, par exemple, tout va ressurgir, et chez le chanteur, et chez les personnes qui écoutent, et qui vont entonner la chanson, quoi. Voilà. Après, donc les karaokés, j'adore en faire aussi avec les amis dans mes fêtes, dans mes soirées, ça peut être pendant mes anniversaires et tout ça. Mais c'est vrai que là, ça faisait pas mal de temps qu'il y avait cette idée de faire peut-être un karaoké téléphonique. J'avais l'idée de faire ça dans un bar et de peut-être... m'arranger pour que ce soit retransmis sur Radio Panique un samedi soir ou un vendredi soir et effectivement que les gens téléphonent en direct et donc qu'on ait cette voix qui vient par les ondes téléphoniques se mettre dans le système audio et se mélanger à l'instrumental, voilà. Et donc ça s'appellerait, si un jour ça existe, ça s'appellerait le karaoké. Mais en attendant, il y a eu cette solution qui s'est présentée, donc de faire ça pendant le moment du confinement. Alors, il y a eu une initiative que j'ai vue passer à un moment sur les réseaux sociaux, très très vite après l'annonce du confinement, deux jours après, il y a des gens qui ont dit, voilà, le samedi soir de 20h à 21h, les artistes, les musiciens, les chanteurs, les poètes, on vous invite à faire des choses sur votre balcon. Donc pour combler un peu le silence qui s'était installé dans les rues.
Bon, pour moi c'était juste un karaoké, donc c'est léger comme ça, voilà. Mais quand je suis descendu dans la rue, et que j'ai en quelque sorte perçu la puissance du truc. Parce qu'il y avait tes voisins, mais des voisins que tu ne connais pas, qui étaient à leur fenêtre et qui avaient un énorme sourire, tu vois, ouais. Qui dansaient sur leur balcon. Et puis il y avait des gens qui sont venus dans la rue et ils étaient chacun à 2 mètres l'un de l'autre, mais ils dansaient en plein milieu de la rue. Et là, d'un seul coup, il y avait quelque chose, c'était comme une manifestation en fait.
Ouais. Une manifestation publique avec des personnes qui se retrouvent pour célébrer quelque chose. Alors par rapport aux voisins, on a eu effectivement tout de suite un impact assez positif de la part de 3-4 balcons voisins dès la première semaine. On a eu aussi des voisins qui restaient complètement derrière leurs rideaux, qui n'ouvraient pas, qui ne répondaient pas forcément aux signaux, et qui, sur les 3 sessions de karaoké, ont commencé vraiment à sortir et à rester. Et effectivement, leur visage s'est un peu transformé, il y a des sourires qui sont arrivés, avec une certaine mixité en plus sociale. Donc voilà, on a vraiment une heure d'audience avec des voisins très... très à l'écoute, très, très heureux de faire ça. Donc on sait qu'on est bien, attendu à ce niveau-là. Après, tu parlais du public. Ça a été une petite problématique qui s'est posée la semaine dernière. C'est-à-dire qu'au niveau de l'effectif, notre première session karaoké, on a eu dans la rue, il y a 5 personnes qui se sont présentées, qui sont restées un petit peu comme ça, un peu caché dans les porches, à observer. C'était plus de l'observation et de la participation passive. Et puis la deuxième fois, on a eu 18 personnes. Donc ça avait quand même considérablement augmenté, quoi, de 3 fois le nombre. Et la dernière session, je pense qu'on était à 40-50 personnes, avec des personnes déguisées en Godzilla, des personnes déguisées en super-héros, des sequins partout. Donc un esprit très festif et vraiment des personnes qui arrivaient presque en courant avec tout ce relâchement de personnes qui n'est pas sorti depuis un mois et qui a peut-être l'habitude de sortir 2-3 fois par semaine pour se retrouver. Voilà, c'est quelque chose qui nous a un petit peu dépassé. Sachant que dès la deuxième fois, en fait, on a commencé à se poser des questions sur quelles étaient nos intentions. Vu qu'à la base, on est dans quelque chose qui est en rapport aux télécommunications, presque radiophonique. Du fait qu'il y a une diffusion comme ça en public dans la rue. Voilà, ça nous a amusé de voir que les personnes étaient réceptives et tout ça. Enfin, c'est aussi de la réaction comme ça. Une chanson arrive, Dalida, chantée par... je ne sais qui, depuis la Suisse, et les gens se mettent à danser et applaudissent à la fin. Voilà, c'est tout le rapport au public qui était très chouette. La troisième session nous a vraiment un peu effrayés, hein, sachant qu'on avait déjà eu la visite. Donc les 2 dernières fois, en fait, la police est arrivée par le bas de la rue et c'était au moment de la dispersion, donc ça n'a jamais été très problématique, mais... on a eu notre dernière session, on a vraiment craint en fait que la police arrive quand il y avait cette 50aine de personnes dans la rue. On était vraiment partagé entre le fait de poursuivre. On a beaucoup modéré en expliquant aux gens qu'il fallait garder la distance sécuritaire. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu un échange du coup avec la police la dernière fois. Où il nous expliquait qu'on était quand même, même si à la base l'initiative était bonne de mettre un peu de musique à cette heure-ci pour peut-être partager un moment un peu avec les voisins depuis nos balcons, mais que là il y a une réelle incitation à la fête.
Incitation à la fête.
Incitation à la fête.
D'habitude on souligne incitation à la haine, mais là c'est incitation à la fête.
Incitation à la violence aussi. Hein. Et c'est un peu le paroxysme. Bon, l'incitation à la fête, voilà, c'est vrai que samedi dernier c'était quand même une journée de total relâchement dans Bruxelles, je pense, de par la chaleur. On a pu remarquer qu'il y avait déjà un trafic automobile qui s'était remis en place assez fortement et beaucoup de personnes dans la rue, dans les parcs. Donc moi j'avais déjà senti ça dans la journée. Il y a eu une bonne réflexion de la part d'un des policiers qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il a fait un gros lapsus. Il a dit « Moi, je suis content que... » Il s'est repris, il a dit « Je comprends que vous fassiez ce genre d'événement, Mais il faut savoir que ça met en péril beaucoup de choses, qu'on est tous, on a tous envie de sortir. Enfin voilà, ils étaient dans une médiation assez, assez pacifiste et assez ouais, pédagogue, hein, en quelque sorte. Mais bon, on a senti, enfin voilà, il y a eu un premier rapport où on nous demandait directement nos cartes d'identité. Finalement, on n'a pas dû les donner, mais on a bien expliqué que c'était pour les voisins, on a bien expliqué que on rappelait qu'on s'était un peu fait dépasser, qu'on rappelait à chaque fois les mesures. Voilà, bah, oui, effectivement, il parle d'incitation à la fête et c'est peut-être le côté un peu orwellien de l'histoire, c'est-à-dire que ça c'est effectivement une espèce de novlangue comme ça, un rappel que la fête est interdite, les rassemblements sont interdits. Voilà, on surfe sur quelque chose, de toute façon on est tous dans l'incompréhension en ce moment et on est un peu dans ce binarisme où on a envie de se protéger les uns les autres et de poursuivre ce confinement en bonne et due forme. Et puis d'un autre côté, des fois, on a notre petit esprit rebelle qui voudrait un peu exploser tout cela d'un coup. Donc c'est dur à... C'est dur de bien se positionner à ce niveau-là. On n'est donc pas encore tout à fait décidé sur est-ce qu'on poursuit samedi prochain ou pas. Parce qu'on est quand même dans une maison partagée à 4 personnes. Donc, en tout cas, on se doit d'être du même avis et dans la même lignée pour poursuivre cette action si on doit le faire.
Oui.
On fait un karaoké pendant une heure et la France s'arrête. Non, pas toute la semaine, on fait ça le samedi, c'est festif, t'as vu?
Ouais,
bah j'ai un peu de l'équipe. À 21h, ça s'arrête. Tu
travailles
demain?
Ok. Rentre chez
toi! On va baisser un peu le volume.
Non.
On baisse un peu le volume, jeune homme.
Excusez-moi, ça vous dérange qu'il fasse une petite animation? Ça vous dérange qu'il fasse une petite animation?
D'abord, tenez-vous loin de moi, s'il vous plaît, parce que on habite là, ça fait déjà je ne sais pas combien de fois qu'ils font ce potin infernal, je trouve ça insupportable, et qu'ils fassent une animation chez eux à l'intérieur. Vous n'avez pas entendu parler du confinement? Non, ça vous a...
Qu'est-ce que ça a à voir?
Que tout le monde est là sur la rue, les uns sur les autres, et puis vous faites chier tout le monde, quoi. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, il y a plein de monde, ça fait chier, ça joue.
Mais c'est qu'une fois par semaine, et ça dure...
Mais pourquoi vous faites pas ça à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire ça dans la rue, et fait que tout le monde doit en profiter? Vous trouvez que ça... Vous trouvez peut-être que ça a de la qualité et tout, mais nous, on trouve que c'est de la merde.
Mais aussi, il y a justement, vous parliez de confinement, justement. Et c'est quand même une situation très particulière dans laquelle tout le monde est.
Vu sur le net qu'il y a des gens qui font DJ sur le balcon, du coup vous trouvez que ça que c'est à la mode et tout ça. Mais continue.
Qu'est-ce que ça a à voir avec la mode? Vous savez bien que les gens font ça. Dès qu'on a un avis différent de vous, vous partez, c'est ça? Regardez, moi je vais vers vous, alors que je sais que vous avez un autre avis que moi, j'ai pas peur de discuter avec vous. Pourquoi vous partez quand j'exprime mon nez?
Vous connaissez le truc, la liberté s'arrête où commence celle des autres. Oui. Ici, vous êtes libre, eh bien vous n'arrêtez pas où commence celle des autres. Ma liberté à moi, c'est d'avoir la paix et de ne pas entendre une musique insupportable et infernale avec des gens qui gueulent, alors que j'ai envie d'être chez moi et d'avoir la paix.
Après, c'est vrai que ces intolérances, bah, on les voit partout. Hein. Y a encore une fois deux sortes de réactions à tout ce phénomène. C'est la peur et la solidarité hein, qui se mettent en place. Hein. D'un côté, ceux qui vont rappeler à des personnes les gestes barrières de manière agressive en tendant le bras quand un jogger arrive pour lui rappeler qu'il doit s'éloigner de la personne. Et puis il y a ceux qui vont dire attention, là-bas il y a une brigade qui est en train de contrôler, donc restez pas assis. Voilà, c'est peur et solidarité, hein, c'est toujours les deux réflexes des citoyens.
Mais vous n'avez pas été emmerdé plus que ça,
Non, encore une fois, moi ce que je crains, c'est pas justement les voisins de, de la rue d'à côté, mais c'était plus les voisins qui sont nos proches, quoi. On a vraiment eu un accueil favorable et des encouragements pour poursuivre. Donc c'est très chouette. Donc sans savoir si cette action va se poursuivre, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que pour la fin du confinement, il se passe dans les rues, parce que voilà, en fait, il y a vraiment un phénomène qui s'est créé, c'est de par le fait qu'il n'y a plus de circulation automobile et ce silence qui s'est imposé dans la rue, et donc un rapport tout à fait piéton à la ville. Les voisins ont commencé à se rencontrer, je pense, dans chaque rue de Bruxelles. Nous, on a vraiment fait la connaissance avec nos voisins, et j'espère que ça va peut-être impulser des envies, comme peut-être des repas de quartier pour fêter la fin du confinement. Et là, pourquoi pas, dans ces cas-là, un karaoké à même le bitume, en fermant la rue. Voilà, ouais.
Je chantais première fois, le public ne connaissait pas, c'est la blessure d'Aléa. Retournant, Aléa, je vois qu'elle m'a donné ses ailes, et dans mon coin, je chantais d'elle.
Sur quoi j'aimerais insister dans cet entretien, mais effectivement, on parlait du rapport politique.
Mais tu vois, parce que là, c'est un peu différent parce que il y a une activité particulière que tu as organisée et qui a un effet.
Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts et puis à la sortie des Beaux-Arts, j'étais un artiste visuel plutôt et très axé sur la rue. Donc mon principe, c'était d'essayer de faire une sorte de propagande à guide propre avec plusieurs degrés de lecture, souvent un peu d'absurdité, mais aussi des choses qui s'attaquaient directement à la politique intérieure quand j'habitais en France. C'était s'intéresser à la politique, à la chose politique. Et puis j'ai eu un glissement à un moment où je me suis aperçu que c'était peut-être vain de continuer à plonger le citoyen dans ces questionnements-là, dans lesquels de toute façon on est plongé automatiquement avec les médias et tout cela. Je parle par exemple de critiquer des personnalités politiques et leurs actions. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait autre chose que la politique, c'était le politique. Et le politique, c'est le phénomène de communiquer, d'échanger un maximum avec les autres citoyens sur plein de choses, mais en tout cas d'être, sortir de l'isolement pour pouvoir partager et s'influencer énormément. C'est ce qui nous manque beaucoup maintenant. Alors c'est pour ça que j'ai monté une association où le principe, c'est de faire de la musique à plusieurs, de réunir un maximum de public, que ce soit des jeunes de la cité d'en face de mon association dans les Marolles, ou des handicapés à déficience légère qui sont en accueil de jour. Voilà, se retrouver pour partager cet instant, c'est-à-dire s'exprimer à l'unisson et faire de la musique, s'accorder là-dessus. Voilà, pour moi, c'est finalement c'est un acte politique avec, avec cette douceur et en même temps cette, cette efficacité sur peut-être la première chose qui nous menace, c'est le confinement qui n'a pas commencé qui n'a pas commencé en mars 2020, mais qui a commencé peut-être à la fin du XXe siècle, ou à ce moment-là, en tout cas, quand les gens ont commencé à être de plus en plus isolés. Ça me rappelle des textes que je lisais à l'époque, des textes anarchistes où on disait que l'isolement, c'était vraiment ce qui nous pendait au nez dans le fait qu'on allait se faire des prisons dorées, où chacun... dans les sociétés modernes, se retrouver entre quatre murs. Et je me rappelle de cette remarque de l'auteur qui disait que, par exemple, en Afrique, dans certaines tribus, le pire châtiment, quand on avait fait une faute grave, c'était l'exclusion, donc le fait de devoir quitter sa tribu un temps et de plus avoir de rapports sociaux. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue, et j'espère qu'on est en train de tous mesurer cela, là, la perte de cette liberté et de ce pouvoir, en fait, hein, d'interagir avec nos semblables.
Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez la...
Ouais, j'ai qu'un seul chanteur, c'est Elvis.
Non, mais je veux dire de l'animation comme ça. Vous trouvez ça chouette ou... Parce qu'il y en a qui n'aiment pas, qui se plaignent, parce qu'ils font une heure par semaine, une petite comme ça.
Moi, ça ne me fait rien du tout. Non, c'est... Pour moi, c'est... J'ai connu ça avant, ça. Hein. Je suis gitan, moi, alors c'est pas la même chose. Hein.
Ah oui, ah oui.
Nous, c'est tout le temps les fêtes. Hein.
Ah oui, mais par contre vous habitez dans un appartement, vous n'êtes plus nomade.
Non, c'est sédentaire. Sédentaire. Ben c'est comme ça, hein. On ne sait pas faire autrement. Hein. Les caravanes, on ne peut plus mettre tout ce qu'on veut. Hein.
Ah, avant, oui.
Ah oui. Il y avait des champs, il y avait de tout. Même Sainte-Marie de la Mer, on va commencer à enlever tout. Pour faire des bâtiments. C'est le pays des richesses.
Et sinon, ça va chez vous en ce moment, comme ça, là, à l'intérieur?
J'ai passé tout ça. Je ne dois même pas penser à tout ça parce que moi, j'ai passé la grippe Hong Kong en 65. Alors, j'étais 6 semaines dans le lit, alors.
La grippe comment? La grippe Hong Kong. C'est quoi?
Ben c'est une grippe. Ici, c'est pas une grippe, hein. C'est un virus. Hein. C'était une grippe, je sais pas si vous connaissez, c'est une grippe vraiment méchante aussi. Hein. Il y avait des morts aussi. Hein.
Ça, c'était en Belgique, vous l'avez eu ou ailleurs?
Oui, alors, à l'hôpital de Saint-Pierre.
Ah, ok.
Qu'est-ce que vous voulez? Il faut y passer, c'est tout. Il ne faut pas y penser, il faut faire la fête, il faut un peu s'amuser, mais il faut prendre ses distances.
Oui, bien sûr.
Ça c'est... Moi je ne regarde pas les distances, je crois que j'ai été contaminé dans tout.
Merci.
C'est rien, bonne journée.
Bonne journée, oui.
Les gens sont bêtes, hein,
de se masquer à notre passage. Ouais. Toi, par exemple, est-ce que tu arrives un petit peu à réfléchir, à décrypter tout ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un peu là-dessus? C'est une question.
Ah ouais. Mais pour le moment, ma façon d'écrire, c'est de faire ces entretiens, ces émissions. C'est impossible d'avoir une vue globalisante. C'est pas seulement un Covid et il y a un virus et une pandémie. Il y a une crise sanitaire qui se double d'une crise économique, qui se triple d'une crise financière, qui se quadruple d'une crise politique. C'est un millefeuille en fait. Ouais. C'est un millefeuille, c'est une crise millefeuille. Et en rencontrant chaque fois quelqu'un de différent, j'essaye de trouver des personnes qui ont des pratiques très différentes et qui se trouvent dans des lieux différents de par leur métier. Et là, c'est là où je suis confronté à la difficulté, effectivement, de sortir de son milieu, tu vois, sortir de son habitude, de rencontrer des gens vraiment différents. Et comme ça, je peux avoir un
panel.
Oui, ou une approche sur une des couches, tu vois. On peut avoir un petit éclairage comme ça sur la région que tu occupes dans la tranche. Tu vois. Et chacun, on occupe des endroits privilégiés de différentes tranches. Et c'est ça, alors je fais un patchwork de ça, de ces petits éclairages comme ça.
Je crois que la priorité pour chacun a été de retrouver son champ d'action par son savoir-faire, de retrouver la possibilité de faire comme moyen de survie aussi. Hein. Donc ça a un double effet, hein, c'est-à-dire que on aurait tendance à se dire allez, on se pose, on arrête tout. Ça, ce serait la première idée pour réfléchir. Alors, est-ce qu'en faisant toutes ces choses qui sont des actions, est-ce qu'on arrête vraiment ou est-ce que c'est pas encore une vanité pour retarder notre réflexion qui peut être très profonde, hein, finalement. Parce que je pense que on est tous dans des points un peu ambigus, à mi-chemin entre la volonté de tout lâcher et la volonté de se réapproprier un petit peu les endroits. Bref.
Ouais, mais tu vois, ce que je me dis, c'est la même manière que tu vas dire les politiques sautent sur l'occasion de la crise. Tu vois, c'est comme quand il y a les vacances, ils passent plein de lois pas trop populaires en Stummelings. C'est ça, en politique, une crise, c'est un champ d'opportunité. Tu vois, tu peux essayer plein de trucs parce que les choses sont en suspension, en suspens. Tu y vas, on y voit là tout de suite, hein, avec la 5G en France, en Belgique, achat pour des millions de drones. Enfin bon, ils y vont quoi. Mais alors, nous aussi, alors, on peut en profiter. Il y a ce truc ambigu. J'ai l'impression que ma vie a plus de sens maintenant que avant le confinement. Ouais. Tu vois, tout ce que je fais est beaucoup plus intense. Enfin, de par la reconstruction, je n'ai pas juste continué comme d'habitude. J'ai dû trouver quelque chose pour donner sens. Et donc, on n'a pas juste laissé seulement aux politiques l'opportunité de profiter de la situation. On peut en profiter justement pour approfondir nos pratiques, pour aiguiser notre regard, notre...
Thank you. garçon.
Radio Panique.
Tofu à ma façon. Alors c'est une recette facile à faire. Il te faut du tofu soyeux. Tu déballes ton petit tofu de son paquet. Et là c'est important, tu le mets dans un torchon. Alors tu le sors bien évidemment délicatement pour pas qu'il se casse. Et là, tu l'emballes dans ton torchon et tu le coinces entre par exemple deux planches sur lesquelles, sur la planche du dessus, tu mets un poids. Histoire que ton tofu perde un petit peu d'eau. Voilà, c'est, je sais pas, on va dire que tu peux le laisser comme ça une vingtaine de minutes, une demi-heure. On va dire le temps de préparer le reste. À côté de ça, il faut que tu prennes, il te faudra un demi-concombre que tu vas couper en macédoine. Et c'est pas mal de le faire dégorger un peu lui aussi. Tu peux ajouter du sel, mais par contre, n'en mets pas trop. Ou alors rince après, parce que sinon la recette sera trop salée au final. Il te faut aussi environ 3 cm de blanc de poireau. Tu vas les couper en deux. Dérouler le poireau et là tu coupes très très fin des fines bandelettes pas, je dirais un millimètre, deux millimètres. Bon, ça prend un petit peu de temps. Et donc voilà, tu découpes tes fines bandelettes et tu les mets à tremper dans un bol d'eau, ça va les attendrir. Tu prends également 1 cm de gingembre frais que tu haches très très fin, vraiment très 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 fin. Bon là, en gros, tu vas attendre un petit peu que ton tofu soit prêt et que ton poireau est baigné tranquillement dans sa petite eau. Et tu prépares dans un petit bol la sauce qui va accompagner le tofu. Alors, tu mets une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée de préférence, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et une épice qui s'appelle chichimi. Le chichimi, ça se trouve dans les épiceries asiatiques. Ça se présente un peu comme du piment, mais dedans, c'est, en fait, c'est un mélange de 7 épices. Donc il y a du poivre, du sésame, je ne sais plus exactement, mais en gros, chichimi, ça veut dire 7 épices. Donc voilà, c'est un mélange un peu rouge, tu trouves ça assez facilement en général, même tu l'as déjà vu parce qu'ils te le donnent dans les restaurants japonais, tu l'as souvent sur la table. Donc voilà, tu fais ta petite sauce. Moi, des fois, j'aime bien rajouter un petit peu d'huile de pépins de courge grillés. Je trouve que c'est sympa, ça rajoute un petit goût sympa. Voilà, tu goûtes, tu vois si ça te paraît trop sucré, trop salé, pas assez. Bon, bien évidemment, ça sera quand même fort salé. Mais c'est normal parce que le tofu n'ayant que très peu de goût, il va falloir quelque chose pour relever un peu. Bref, quand ta petite sauce est prête, que ton tofu a dégorgé, que ton blanc de poireau s'est attendri dans l'eau, tu prends ton bloc de tofu, tu le déballes. Tu le mets dans un joli petit plat. Par-dessus, joliment, tu jettes tous les autres ingrédients, c'est-à-dire ton concombre en macédoine, les blancs de poireaux qui font des filaments, et le gingembre, tu le mélanges à ta sauce. Tac, 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 tu remues, et là, hop, tout simplement, tu verses la sauce par-dessus le tofu. Pour la décoration et pour le goût, tu peux aussi rajouter des graines de sésame grillées dessus. C'est joli et en plus ça rajoute du goût. Voilà, c'est une recette toute simple, mais c'est une super façon de déguster le tofu frais. Sans cuisson, sans marinade, c'est vraiment très agréable. Comme il a un petit peu dégorgé, du coup tu peux facilement le frapper à la baguette. Et voilà, c'était ma petite recette personnelle de tofu frais. J'espère que tu trouveras ça bon. Des bisous et bon appétit.
C'était Madame Patate, qu'on remercie d'avoir répondu à la demande culinaire. Elle venait juste après un Claude François que je n'ai pu résister à remixer en souvenir de l'ambiance du karaoké dans la rue. Il nous reste encore quelques minutes pour un choix musical. Thank you.
red is strong. The blue is pure. Something lasts a long time. Something lasts a long time.
Breaking my spirit's broken too.
my sick bed.